Alors, le mythe des autruches, une spécificité de la représentation de Yahvé au sud. La question que nous allons poser est celle de la représentation de Yahvé dans le sud. Peu nombreux sont en effet ceux qui pensent que Yahvé n'était pas représenté dans les temps pré-exiliques, tant le matériel biblique et extra-biblique est probant à ce sujet. En effet, les travaux d'Otmar Kehl et de Christophe Hullinger ont relevé pléthore de représentations du divin, pas de Yahvé forcément, parce que ça on ne le sait pas, mais du divin dans l'Israël-Palestine biblique, sans qu'on sache avec certitude si celle-ci représentait Yahvé. Ce qui est sûr, c'est que la production iconographique n'a pas diminué entre le bronze et le fer, et que si on en croit les textes bibliques, Yahvé était régulièrement identifié à ces images. Vous voyez ici une liste de références bibliques. Il nous semble aussi acquis qu'en polyyavisme, pour reprendre le terme de Berlayung, existait sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs endroits indépendants probablement où il y avait des vénérations de Yahvé. Dans le cadre de l'hypothèse madiano-kénite qui postule l'origine de Yahvé au sud, certaines études se sont posées la question si une venue de Yahvé depuis le sud pouvait être retracée par des sources extra-bibliques, notamment iconographiques. Kehl et Hullinger ont relevé la présence du maître des autruches et de Baal Seth, que vous voyez ici affiché, au sud, et l'ont mis en relation avec les origines sudistes de Yahvé. Avec le maître des autruches, c'est surtout Kehl, il y aurait donc une irruption d'un nouveau motif autour de l'an 1000 qui concerne surtout le sud, même si ce motif a aussi été retrouvé ailleurs, mais à moindre mesure dans le nord. Ainsi, on retrouve le motif des autruches dans le sanctuaire édomite de Horvat Kitmit, probablement dédié à Kos, ce qui renforcerait encore une fois le lien entre Yahvé, le sud et Kos. Mais ça, c'est une autre question. La représentation du maître des autruches reste assez énigmatique à comprendre. Est-ce une preuve de l'origine sudiste de Yahvé? Et pourquoi cette représentation? Et est-ce qu'elle représente d'ailleurs Yahvé? Cette découverte est d'ailleurs reprise avec prudence dans la quête des origines sudistes de Yahvé. Le lien exact entre le maître des autruches, Yahvé, et le discours biblique reste flou et peu discuté dans la littérature scientifique. Nous proposons d'approfondir cette discussion ici, surtout pour clarifier le lien qu'il existe entre le discours biblique et celui du maître des autruches. Nous espérons par là montrer que ce motif renvoie à une conception d'Yahvé qui a été marginalisée dans les textes vétérotestamentaires par un autre discours, à savoir celui de l'Exode, qui semble, lui, plutôt venir du Nord, comme on le verra dans la prochaine contribution. En même temps, nous tenterons de réfléchir à la place que peut avoir ce motif, c'est-à-dire le maître des autruches, dans la thèse madiano-kénite. En effet, ce serait faire fausse route que de croire qu'un tel motif indiquerait automatiquement l'origine de Yahvé. Tout comme les textes, cette source montre que, dans le polyyavisme de l'Israël pré-exilique, il y avait des lieux de culte si différents qu'ils ne parlaient pas de Yahvé en des mêmes termes, voire qui supposaient des origines différentes. Nous allons d'abord parler de la particularité iconographique du Sud en comparaison avec le Nord, très brièvement, pour ensuite réfléchir sur la signification du maître des autruches dans ce contexte-là, c'est le point 2, pour voir ensuite dans quelle mesure ce motif peut renvoyer à un Yahvé des steppes. Et finalement, nous verrons que le discours sur le Yahvé des steppes s'est développé indépendamment du discours de l'Exode et représente une particularité du Sud. Avant de parler du maître des autruches, il faut réfléchir donc au contexte. Quelle différence iconographique y a-t-il entre le Nord et le Sud? De manière générale, il est reconnu qu'il y a des différences, mais les particularités iconographiques liées au Sud et au Nord restent sujettes à discussion. Ce qui semble sûr, c'est qu'il n'y a jamais eu une situation religieuse homogène dans les temps pré-exiliques, ceci en tout cas dès le bronze récent. Certes, il y a des motifs communs au Sud et au Nord, comme le lion, qui accompagne la figure divine, voire la représente, ou même l'image bovine. Mais au-delà d'un fond commun, il y a quand même des différences, notamment au niveau de la manifestation locale du Dieu, comme Cockhart le dit. Alors, quelles sont ces différences? Le Sud est davantage caractérisé par des motifs comme les uréis à quatre ailes, les représentations anthropomorphes, souvent à tête de Seth, en combat ou non avec le serpent cornu, le scarabée poussant la boule solaire ou le maître des autruches. Je reprends ici les résultats de l'enquête de Kehl et Hullinger. Le Nord se qualifie par d'autres motifs. Ainsi, au fer 2, les représentations du type du jeune dieu imberbe, ailé qui représente probablement Baal, ne se retrouvent qu'au Nord. De manière générale, l'influence syro-cananéenne semble plus grande au nord. Ainsi, par exemple, le taureau, qu'on trouve dans le sud, accompagne souvent les représentations des dieux de type Baal-Hadad et semble donc d'origine et d'inspiration syrienne. Le matériel biblique semble donc confirmer cette différence, vous le voyez en dessous du tableau. La polémique contre le taureau est véhémente au nord, surtout en Roi 12, mais aussi dans les textes de Osée, et manque au sud. Le serpent cornu, symbole de tous les dangers contre lequel le Baal 7 sudiste se bat, ou les uréis se retrouvent dans le sud sous forme du serpent d'airain qu'on trouve dans Nombre 21 ou dans 2 Rois 18. Ces différences iconographiques renvoient à des différences sur la conception de Dieu. Ce qui peut être compté comme acquis est qu'au sud, Yahvé semble avoir été plus directement égyptien, la preuve Baal 7, et autochtone, alors que le nord subit l'influence phénico-égyptienne. La question qu'on peut dès lors se poser est de savoir, et là je cite, si Yahvé était au 8e siècle davantage perçu comme un seigneur du ciel, Baal Shamem, en Israël, et comme El solaire en Juda, pour reprendre ici notamment aussi l'étude de Nir. On peut rajouter à cette question celle de savoir si Yahvé était plus autochtone au sud, puisque Juda se trouve isolé au sud, loin des axes géopolitiques, contrairement au royaume du nord. Si nous résumons tout cela en tenant compte de l'éclairage biblique, il est possible d'affirmer la thèse suivante. La situation du royaume du nord semble plutôt renvoyer à des influences syro-phéniciennes et à une iconographie liée à l'Exode avec la présence des taureaux, alors que le sud possède une iconographie plus éloignée du discours qui domine actuellement la Bible hébraïque. Ainsi, le serpent d'airain, le serpent cornu, Baal 7 ou le maître des Autriches sont marginaux dans l'Ancien Testament. Autrement dit, l'iconographie du Nord nous semble aujourd'hui plus lisible, tout simplement parce qu'on peut la rattacher, notamment, mais pas seulement, à l'Exode. Cela vient du fait que le discours sur l'Exode a probablement été repris par le Sud lors de la chute de Samarie, si on en croit certains exégètes. Là aussi, je renvoie à la contribution qui va suivre. Ce discours est ensuite devenu majoritaire dans le Sud. L'iconographie, mais aussi la théologie pré-josianique, c'est-à-dire celle avant la chute du royaume du Nord, donc cette iconographie du Sud est plus énigmatique, car il est plus difficile de la rattacher à quelques parallèles bibliques connus. C'est dans ce flou du Juda pré-josianique et débarrassé de la conception de l'Exode qu'il faut essayer de comprendre le maître des autruches. Nous venons maintenant au maître des autruches et à sa signification. Que peut nous apprendre le maître des autruches sur la religion pratiquée au Sud? Tout d'abord, il faut nuancer les propos de Kehl qui souligne que le motif d'une figure flanquée de deux autruches est originaire d'Israël. Certes, cette disposition particulière manque dans le monde assyrien et syrien avant la période néo-assyrienne, mais Herles souligne bien que le maître des autruches est lié aux autres représentations de chasse, notamment à celle où un personnage anthropomorphe tient une autruche par le cou. Or, cette constellation se trouve partout dans le Proche-Orient ancien, surtout dès le premier millénaire avant Jésus-Christ, d'Assyrie au royaume néo-hittite, en passant par Ougarit, l'Arabie du Sud et l'Iran. Je mélange ici les époques et aussi les lieux, juste pour vous montrer à quel point cette iconographie est dispersées. Les autruches peuvent apparaître en lien avec le numineux, notamment en Arabie du Sud, mais pas seulement. On a trouvé des exemples au Yémen. Cette association avec le divin est d'ailleurs confortée par le fait que les sources écrites du deuxième millénaire désignent le chasseur de l'autruche comme roi, c'est-à-dire que le roi est souvent celui qui chasse l'autruche, et le roi étant lui-même la représentation du dieu dans le Proche-Orient ancien, on voit que le glissement peut être vite fait. Pour notre sujet, il faut noter que le maître des autruches remplace en Palestine, autour de l'an 1000, le motif du maître des crocodiles et s'inscrit par là dans la tradition d'une domination des bêtes sauvages et des bêtes du désert par une figure divine anthropomorphe, pour reprendre Kehl et Hullinger. Autrement dit, ce type d'image souligne la force des divinités qui gardent le dessus sur la menace sauvage, comme c'est le cas pour la déesse nue qu'on retrouve au bronze moyen que vous avez devant vous en Palestine et qui est entourée de capridés, de vautours, de lions, mais pas seulement, aussi de végétaux. Cette constellation iconographique correspond à l'épithète maîtresse de la steppe qu'on utilise dans les textes, par laquelle est désignée dans les textes akkadiens du bronze moyen la déesse Ashratum, précurseur de Atirat Ashera. La steppe désigne la force du dieu qui maîtrise le domaine non civilisé en bordure des habitations. C'est dans cet ensemble du maître de la steppe qu'il faut comprendre le maître des autruches. Dans le contexte de Juda, il faut se rappeler que dans le sud et en Arabie, l'autruche est souvent, mais pas seulement en Arabie, est souvent l'animal du désert et de la steppe. Ce motif renvoie l'observateur au danger en lisière des terres cultivées. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce constat-là. Cette constellation fait en même temps penser à la rhétorique guerrière qui décrit l'incursion des êtres surnaturels, des démons ou dieux qui viennent justement des zones limitrophes, souvent décrites comme des steppes. En effet, les démons vivent dans ce domaine dans le Proche-Orient ancien. Et puis là, je cite un contributeur du colloque de l'année passée qui disait, en parlant des démons, « Just like foreigners, demons live in the mountains to the east and steppes to the west ». Ces démons vivent donc à l'extérieur, pour reprendre cette citation, mais tout de même dans des domaines proches, comme pour souligner leur force imminente. C'est le cas pour l'Amashtu, dont la venue de l'extérieur est décrite comme une irruption violente. Ici, vous avez le texte traduit par le même contributeur, qui est Hesel. « Her abode is in the marshes, her lair is the grass. She came up from the marshes and is widely raging. » La venue du maître et de la maîtresse de la steppe est souvent identique à des menaces guerrières, comme l'a montré Hesel. Ainsi, la Mashtu est dite, par exemple, amorite dans un contexte dans lequel les amorites posent justement problème au roi babylonien, mais dans d'autres contextes, elle devient suthéenne, élamite ou mésopotamienne. À notre avis, il faut comprendre le maître des autruches comme une sorte de démon qui vient justement de l'extérieur faire une incursion. Mais attention, cette rhétorique souligne l'incursion guerrière de la figure et non son origine. Ce n'est pas parce qu'il vient d'un endroit qu'automatiquement il est originaire ou elle est originaire de cet endroit. En effet, la représentation met en scène le champ iconographique et symbolique des steppes sauvages et n'indique en rien automatiquement ni l'origine ni le sud. D'ailleurs, la preuve en est que les démons changent d'origine d'après les zones géographiques qui menacent le milieu producteur des textes. Nous pensons donc que le maître des autruches est à insérer et à comprendre dans cette rhétorique bien plus vaste. Les comparaisons avancées montrent donc, en conclusion, de ce point que le maître des autruches fait d'abord référence à une rhétorique particulière du Proche-Orient ancien, plutôt qu'indiquer une origine géographique. Mais ce n'est pas pour autant que ce motif ne nous apprend rien sur la religion au Sud. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous la question si le maître des autruches peut être identifié à Yahvé. Pour répondre à cette question, il faut d'abord noter que l'apparition de ce motif au Sud d'Israël coïncide avec l'établissement d'une monarchie en Juda, grosso modo, à savoir la première partie du fer 1 et le passage au fer 2. Cette coïncidence pourrait favoriser une identification entre Yahvé et le maître des autruches, puisque la royauté a sûrement contribué à diffuser la foi yahviste, comme on peut le voir aussi avec l'exemple des royaumes voisins, que ce soit Moab, Ammon ou autre. Le dieu national commence à jouer un plus grand rôle dans ce contexte-là. Le problème d'une identification avec Yahvé, c'est que l'iconographie du maître des autruches paraît bien éloignée du discours biblique, comme je disais en entrée. Ce discours biblique qualifie Yahvé par d'autres langages, notamment celui de l'Exode, au risque de me répéter. Pourtant, des analogies peuvent être faites avec certains textes de la Bible hébraïque. Qu'il avait déjà rapproché ses sceaux du discours de Job 38 à 39, où Yahvé est représenté comme le maître des animaux. Mais d'autres textes permettent de prolonger cette réflexion, textes qui ne parlent pas directement des autruches. En effet, comme nous l'avons vu, l'autruche renvoie à l'horizon plus lointaine des zones non habitées, des steppes. Si on se tourne vers l'utilisation du mot autruche en hébreu, ici Renaïm, ou Yaen, ou Yahana, ou en acadien Lourmou, on se rend compte que cet animal apparaît souvent en lien avec le désert au sens large des terres non habitées. Il faut donc inscrire le maître des autruches dans la rhétorique plus vaste d'une divinité qui vient de ces zones-là. Certains textes de l'Ancien Testament décrivent justement Yahvé comme venant de ces terres. Il s'agit des poèmes bien connus, Deutéronome 33, Juges 5, Habacuc 3 ou Psaume 68. Nous disons bien connus parce que ces textes-là jouent un rôle essentiel dans le débat sur les origines sudistes de Yahvé. Ces textes renvoient d'abord à l'idée de frontière. Ainsi, pour prendre un exemple, et le plus connu, puisque souvent il est crédité d'être le plus ancien, ainsi en Juges 5, Yahvé vient d'Édom. Nous avons bien là un lieu limitrophe à Israël et il fait une incursion. Cette vision d'un Yahvé maître des zones de non-droit a probablement dû se prolonger dans certains textes prophétiques qui contiennent des descriptions de terrains vagues, limitrophes, souvent de ruines d'anciennes cités, dont Nian a parlé l'année passée. Ésaïe 13, notamment, mais d'autres textes comme nous le verrons. Ainsi, les ruines, steppes et les marges de la culture ambiante sont peuplées par des figures sauvages, souvent des animaux comme les créatures du désert, l'autruche justement, le vautour, etc. Mais Yahvé reste le maître de ces êtres. Ainsi, dans un texte qui parle justement d'Edom, comme c'était le cas de Juge 5, Yahvé est décrit comme le maître de ces contrées en Ésaïe 34. Je cite ici le texte que vous trouvez au troisième point. C'est lui, Yahvé, qui a procédé au tirage des parts pour eux, et c'est de sa main, ici pour eux, hein, c'est les animaux, les habitants de ces ruines, et c'est de sa main qu'il leur a partagé le pays au cordeau. Yahvé s'apparente à cette zone et la domine, mais il s'agit probablement de textes plus tardifs. Ces textes sont, par contre, vraisemblablement des réminiscences dans Yahvé, maître des zones limitrophes. Il semble donc bien qu'il y ait dans la Bible une mémoire dans Yahvé des steppes, à l'image du maître des autruches. Le fait que ces sceaux paraissent en même temps que le yavisme, comme nous l'avons dit plus haut, et le fait que ce discours se trouve aussi dans la Bible, même marginalement, augmente fortement les possibilités d'une identification de ces sceaux et de Yahvé, sans qu'on puisse dire avec certitude si nous avons là bien Yahvé. Si cela est vrai, que nous apprend alors ce discours sur la religiosité dans le Sud? Comme nous l'avons déjà dit, le lieu d'où le dieu ou le démon vient pour faire son incursion indique peu ou rien sur l'origine du dieu. Ce langage nous renseigne par contre sur le yavisme dans le Sud au XIe-VIIIe siècle, puisque dans le cas présent, il faut être conscient que c'est dans cette zone-là qu'apparaissent ces sceaux. Donc si le motif n'indique pas le Sud, le lieu de découverte des sceaux le fait, puisqu'il y a une plus forte concentration de ce motif au Sud, comme je viens de le dire. Autrement dit, la question n'est plus celle des origines, mais celle du discours qui était tenu sur Yahvé, là où les sceaux ont été trouvés précisément, à savoir, pas seulement, mais notamment dans le Sud. Plutôt que l'origine, ces sceaux nous indiquent comment on s'imagine Dieu dans le Sud. En reprenant ce langage, des textes comme Juge 5, versets 4 à 5, veulent souligner, on le verra après rapidement ce texte, veulent souligner la force martiale dans le contexte de guerre tribale, comme c'est le cas dans les chapitres 4-5 du livre des Juges. Le Yahvé du Sud fait ici, dans ces chapitres, une incursion jusqu'au nord pour exercer sa force. De même, les parallèles qui concernent la déesse Lamashtu ou Ashratum renvoient en contexte guerrier à la puissance du Dieu. Ici, la venue de Yahvé s'apparente à cette force guerrière. La venue d'une figure qui s'apparente en démon souligne donc le pouvoir martial de cette figure. Ces textes mettent en scène un réseau symbolique qui se suffit à lui-même et point essentiel pour la recherche, pour nous en tout cas, qui n'a pas besoin de l'Exode pour être compris. L'enjeu ici n'est pas de souligner la libération d'un pays de l'Exode ou de l'Égypte, mais l'appui guerrier du Dieu dans des guerres locales en Israël. Il est dès lors compréhensible pourquoi les textes poétiques ne comportent pas de référence explicite à l'Exode. En Juge 5, par exemple, cette référence manque complètement dans les versets théophaniques, mais aussi dans le contexte de Juge 4 à 5. Certes, Juge 5-5 parle du Sinaï, mais cette référence ne peut sans autre être vue comme une référence à l'Exode. Outre le fait que la tradition de l'Exode n'avait probablement à l'origine rien à voir avec la tradition du Sinaï, si on suit le constat de Wellhausen, la mention du Sinaï est fort probablement un rajout tardif dans Juge 5.5. Bref, il est très peu probable que le Sinaï, sans autre, fasse référence à l'Exode. D'autres formules auraient en effet existé pour souligner l'Exode dans ces textes poétiques, comme « Je suis Yahvé ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte », formule qui n'est pas employée ici. D'ailleurs, les verbes ne sont pas les mêmes que ceux utilisés pour l'Exode. Les verbes typiques de l'Exode, comme « Allah »,« faire monter », où « yatsa » ou « hifil » faire sortir » manque. Le verbe « yatsa » est utilisé au kal et du coup change de signification puisqu'il signifie ici « se lever ». Ça indique donc un arrière-fond complètement différent. Ce n'est que plus tard que les deux traditions de l'Exode et de la steppe ont été mises ensemble. En effet, on constate que les textes poétiques rajoutent peu à peu des références discrètes à l'Exode. Nous pensons que l'absence de ces références en Juge 5 pourrait indiquer l'âge plus élevé de ce texte par rapport aux autres textes poétiques évoqués plus haut, qui rajoutent des liens plus ou moins explicites à la tradition de l'Exode. C'est ce que nous allons voir maintenant en analysant, mais très rapidement, le matériel biblique. Nous allons partir de la comparaison de Juge 5 et de Psaume 68 pour notre analyse. Si on compare Juge 5 à un de ces textes parallèles, le Psaume 68, il est possible de confirmer cette insertion progressive du Yahvé des steppes dans le matériel de l'Exode du Nord. En effet, la comparaison permet de voir que les rédacteurs ont entrepris une réinterprétation discrète mais progressive du Yahvé des steppes en Yahvé de l'Exode. Le psaume 68 restitue ainsi Juge 5 au milieu du désert de l'Exode. Ce psaume est une reformulation plus tardive de Juge 5. Il est intéressant, je vais maintenant essayer de le démontrer, de noter que le psaume 68 remplace la double mention de l'origine de Yahvé dans Juge 5, qui était Séir et Édom, par d'abord une mention sur la manière de guider le peuple, au-devant de ton peuple, ce qui peut faire penser à la colonne de fumée dans le livre de l'Exode, et ensuite par Yoshimon, terme qui renvoie à la traversée du désert, si on tient compte des parallélismes entre Yoshimon et Midbar, donc les termes qui désignent le désert. Il faut y voir, pour reprendre les termes de Jérémias, des « secundäre historisierungen » qui interprètent et déplacent la venue de Yahvé du Sud vers l'Égypte. Cette mise en relation avec l'Exode semble avoir été stimulée par l'importance qu'a pris Jérusalem, ce qui est encore visible au verset 18 du psaume 68, qui relocalise tout le Sinaï dans le sanctuaire, terme qui est utilisé notamment pour Jérusalem, le Ha-Kodesh. Cette importance de Jérusalem pourrait indiquer que la mise en relation des traditions nordistes et sudistes semble avoir été favorisée par la centralisation des traditions qui a eu lieu sous Josias, mais cela n'est que pure hypothèse. Si cela est vrai, cela voudrait dire qu'avant cette mise en relation de l'Exode et du Sud, le Yahvé d'Édom et de Séir n'avait que peu à voir avec le dieu de la sortie d'Égypte. Pour finir, nous pensons qu'il est possible de retracer la même histoire des rédactions au niveau de Deutéronome 33, et de Habacuc 3, sans que nous puissions, vous en doutez, le faire ici en détail. Qu'il nous suffise de noter que dans tous ces textes, les versets théophaniques s'accordent mal avec leur contexte, ce qui témoigne que cette tradition des steppes est venue postérieurement se combiner à d'autres traditions. Cela est confirmé par le nom des lieux qui sont mentionnés dans Deutéronome 33, Juge 5, Psaume 68 et Habacuc 3, puisque quand on compare ces lieux, il est possible de répartir ces lieux en deux grands groupes. D'une part, ceux qui pointent vers la tradition de l'Exode, et d'autre part, ceux qui indiquent le Negev. Le Negev serait indiqué, en l'occurrence, par Teman, Seir et Edom, alors que l'autre, l'Égypte, par Paran et Meribat, Kadesh. Il est alors fort à parier que ce mélange montre une mise en relation tardive des deux matériaux. Alors que Teman, Seir et Edom désignaient à l'origine une autre direction, celle du Negev, les mentions du mont Paran, Meribat, Kadesh, peut-être du Sinaï, c'est difficile à dire, tire fort probablement la couverture vers l'histoire de l'Exode. Or, justement, en Juge 5, on ne trouve pas les lieux qui indiquent l'Égypte. Pour conclure, ceci montre que le Yahvé des steppes n'était pas lié à la tradition de l'Exode dans le Sud. Tout comme ce motif du maître des autruches en Arabie, le Yahvé des steppes semble être une expression autochtone, mais il faut vraiment le prendre avec des guillemets, puisqu'on le trouve aussi ailleurs, mais en l'occurrence, une concrétisation locale de ce motif-là. Il s'agissait d'un dieu guerrier, à l'image du maître des autruches et des démons qui faisaient des incursions depuis les zones limitrophes. Le Yahvé du Negev ne comportait aucune référence à l'Exode, ce qui montre à quel point les cultes de Yahvé étaient différents dans les temps pré-exiliques. Ce Yahvé n'a été mélangé aux autres traditions, celles du Nord, dont celle de l'Exode, uniquement par la suite. Venons-en maintenant au texte du Pentateuque pour voir, encore une fois, comme ces deux textes, ces deux traditions, Negev et puis Exode, s'imbriquent. Les textes du Pentateuque qui parlent de la venue de Yahvé du Sud permettent aussi de voir qu'à l'origine, le Yahvé du Sud n'avait rien à voir avec la symbolique de l'Exode. En effet, ces textes sont le pendant inverse des textes poétiques. Autant la référence à l'Exode était discrète dans ces derniers, autant la référence à un Yahvé d'Édom, de Séir ou de Teman, c'est-à-dire en Yahvé des steppes, que nous avons nommé des steppes, est discrète, voire absente dans les théophanies du Pentateuque. Nous pensons que l'histoire de l'Exode existait au départ sans lien à la révélation de Yahvé au Sud, vous l'avez compris. Il faut tout d'abord noter qu'aucune théophanie liée au Sud est bien ancrée dans le livre de l'Exode. Les théophanies du Sud sont liées soit à Madian d'une part, soit au Sinaï d'autre part, je laisse le Horeb de côté pour l'instant. Or, les deux lieux sont mal insérés dans le texte de l'Exode. Comme Wellhausen l'avait déjà noté, je l'ai dit avant, la péricope du Sinaï est une insertion dans Exode 17, nombre 10, puisqu'elle interrompt le contenu et la géographie continue de ces chapitres. Quant aux références à Madian, elles sont tout aussi mal imbriquées. C'est ce que nous allons voir maintenant. Si on se tourne vers les textes madianites positifs. Les textes madianites négatifs sont probablement plus tardifs. Si on se tourne vers les textes madianites positifs, on remarque rapidement que ces passages ont un emplacement très particulier. Si nous suivons le tableau de Dozeman, il est possible d'affirmer que le rédacteur a encadré les grandes théophanies du Pentateuque, c'est-à-dire Exode 3 et Exode 19 à nombre 9, ça vous le voyez au milieu, que cela a été encadré par des références positives aux Madianites, toutes en tenant les Madianites à l'écart. Le rédacteur a placé des textes Madianites à des endroits peu naturels, éclatant parfois la trame narrative. Ainsi, la référence à la montagne de Dieu est illogique puisque les Israélites l'atteignent en Exode 19 en 2, alors qu'en Exode 18, déjà par avance, on dit qu'ils l'ont atteinte. Placer ces textes à cet endroit poursuit donc en but celui d'insérer les Madianites sans trop les insérer. En effet, alors que les Madianites encadrent le récit théophanique, ils sont tenus à l'écart des théophanies mêmes, puisque le texte prend bien le soin en Exode 3, par exemple, d'éloigner l'action des Madianites, voire même de Madian. Par exemple, la théophanie d'Exode 3, qui est censée se dérouler à Madian, est précédée par Achar Hamidbar, derrière le désert, ou bien vers la montagne de Dieu. À chaque fois, les personnages se distancient donc de Madian. Nous pensons que nous avons là les traces d'un travail rédactionnel qui avait pour but de réunir plusieurs traditions différentes sur des origines ou des premières théophanies, ou des théophanies tout court, de Yahvé. L'emplacement des textes madianites en marge des théophanies du Sinaï et le fait que le Sinaï est lui-même mal inséré dans le livre de l'Exode semble conforter cette idée de l'indépendance du Yahvé du Sud et du Yahvé de l'Exode. Tout cela nous permet de dire que les cultes du Sud, désignés ici par le terme générique de Madian et de Sinaï, ont été liés à l'histoire de l'Exode, mais uniquement dans un deuxième temps. Un rédacteur plus tardif a ensuite rajouté à la trame d'Exode nombre Madian et Sinaï, qui sont des traces de mémoire liées au Sud et probablement toutes deux indépendantes à l'origine. Ainsi, le texte de l'Exode que nous avons aujourd'hui est une magnifique synthèse entre la mémoire d'anciens cultes du Nord, comme on va le voir dans la prochaine contribution, et le Yahvé du Sud. Pour conclure, nous avons constaté qu'il y a plusieurs cultes de Yahvé dans les temps pré-exiliques et que ces cultes ne véhiculent probablement pas la même mémoire, notamment sur l'origine. Certains étaient liés à l'Exode, d'autres au Yahvé des steppes. Le travail historico-critique sur les textes vient confirmer l'idée que le maître des autruches représente probablement Yahvé, mais un Yahvé différent de celui de l'Exode. L'iconographie du Sud, dont celle du maître des autruches, reflète probablement une conception de Yahvé au Sud qui a aujourd'hui disparu, mais qu'il est possible de retrouver grâce à l'iconographie corroborée par l'historico-critique. Yahvé semble avoir été vénéré au Sud comme un dieu des steppes, difficile à maîtriser mais puissant, puisque lui-même dominait les zones limitrophes dangereuses, et en cela, l'identification entre le maître des autruches et Yahvé est fort probable. Merci de votre attention.